Here's a song that comes from Tanzania. Malaika.
Bonjour, 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 auditrices et auditeurs de Radio Galère. Oui, c'est rigolo parce que, vous savez, dans le studio, voilà, on a une lumière qui nous dit que nous sommes sur l'antenne. Et alors, la lumière qui nous dit que nous sommes sur l'antenne, elle est en train de nous faire des petites fantaisies. Là, donc, nous sommes au micro.
Ça marche pas.
Nous sommes au micro en ce mercredi 1er avril à Marseille. Ben voilà, c'est la blague du 1er avril. Alors, je ne sais pas si c'est la blague de la technique, la blague des copains, la blague de je ne sais pas qui. Enfin bref, moi j'ai déjà la voix qui déraille. Et en plus, il y a donc l'ampoule du studio qui nous fait des siennes. Mais voilà, c'est rigolo. Donc, mercredi 1er avril à Marseille, ce n'est pas une blague. Vous écoutez Radio Galère, vous écoutez Livres et Amis, vous écoutez Dominique et Françoise. Et il y a Swan à la technique qui continue à nous parler, à nous dire des trucs qu'on n'entend pas. Donc, je ne sais pas trop ce qui se passe. Françoise est allée voir. Et vous en faites pas, on va continuer l'émission. Je les vois là de l'autre côté de la vitre qui se racontent des trucs. Écoutez, tout va bien. On va essayer de continuer cette émission sans se laisser perturber par justement les problèmes techniques, puisque nous avons quand même des micros qui fonctionnent. Ah oui, alors je suis désolée, la semaine dernière, on a eu à un moment, je crois, un micro qui a été coupé. Mais a priori, le calme est revenu. Le Mistral n'a pas complètement détruit les contacts. Donc voilà, tout va bien. On va essayer de faire l'émission. Je vais couper mon téléphone pour que nous ne soyons pas interrompus. Françoise a déjà coupé le sien. Et donc, on continue. Voilà. Alors oui, la blague, c'était quand même le Mistral, hein, là, depuis jeudi dernier. Ouh là là, vous connaissez sûrement le dicton marseillais qui dit que le Mistral souffle 3, 6 ou 9 jours. Là, on est déjà bien à 6 et je crois qu'on va à 9 puisque ça va un peu mieux, mais ça souffle encore un petit peu jusqu'à vendredi. Et alors, à partir de samedi, plage, soleil, machin, tout ce qu'il faut, il fera beaucoup plus doux. Alors, notre lampe s'est mise en clignotant. Là, c'est un peu dur de lire quand on a une lampe qui clignote, mais c'est pas grave. On espère que ça va se stabiliser. Oui, je vous raconte tout en direct. Hein. Là, vous êtes vraiment en direct à la radio. Donc, écoutez, soleil et plage, disais-je. On va quand même ne pas oublier la lecture, ne pas oublier la culture. Il y a So qui est venue à la rescousse. Oui, elle était peut-être dévissée, l'ampoule, mais ça ira mieux quand elle sera revissée. Non, elle était en train de mourir, donc il l'a enlevée. Donc, on ne sait plus si on est en ligne ou pas. Tout va bien.
On le sait là sur l'écran.
On le sait là sur l'écran, d'accord. Donc, écoutez, on va continuer tranquille. Je disais qu'on n'oubliait pas la lecture et qu'on n'oubliait pas la culture. Et je voulais vous parler justement de ce qui nous reste là pour le prochain week-end. Enfin, pour la fin de la semaine d'abord et le prochain week-end. D'abord, le printemps du film engagé qui continue. On a vu des choses vraiment intéressantes au Gyptis. Et on a vu aussi, je crois qu'à Vitrolles, il y a eu un film intéressant aussi. Et ça continue donc ce soir, ou disons en fin d'après-midi, à l'Alcazar, une projection d'un film sur la réinsertion de prisonniers par du travail agricole dans la Montagne Noire. Ça doit être chouette. Et puis, il y a des rencontres autour de la projection, donc à l'Alcazar à 18h. Et puis, un grand classique du cinéma, on ne peut pas dire du cinéma militant, mais du moins du cinéma qui donne l'image et la parole aux films populaires. Il y a « La vie est à nous »,« La vie est à nous » de Jean Renoir au Vidéodrome à 19h30. Et puis, une soirée intéressante aussi vendredi à La Baleine. Nuestra Tierra et Je suis la lune en plein midi. Alors, rien à voir, Nuestra Tierra, excusez-moi. Ça va parler de un petit peu ce qui est notre sujet du jour, c'est-à-dire les Indiens d'Amérique latine et la façon dont les Indiens d'Amérique latine, un peu comme les Indiens d'Amérique du Nord, ont été ultra colonisés, détruits, massacrés et tout ce qu'on veut par les colonisateurs. Donc, ils continuent à lutter. Nuestra Tierra, ça se passe en Argentine, dans la partie centrale et nord de l'Argentine, alors que nous, dans un petit moment, là, nous allons parler au contraire de la Terre de Feu et de l'extrême sud de l'Argentine. Enfin, dans tous les cas, les problèmes des Indiens d'Amérique latine qui continuent à lutter pour garder leur terre, justement, et le film s'appelle « Notre Terre ». Et puis alors, je suis la lune en plein midi. Alors, notre terre, c'est à 18h, Nuestra Tierra. Et je suis la lune en plein midi, c'est à 20h30, toujours à la baleine. Et ça, c'est un film que j'avais voulu voir il y a un petit moment au Mucem. Je n'avais pas pu le voir finalement, donc je vais y aller à la baleine. C'est un film performance, un peu, enfin même complètement déjanté, mais qui pose le problème des résidences privées, des propriétés, comme ce qu'on dit aux États-Unis, gated properties, gated communities, c'est-à-dire les gens qui ferment les rues. Et dans le sud de Marseille, il y a énormément de rues qui ont été comme ça privatisées et qui sont désormais fermées par des grilles. Donc, c'est un peu Don Quichotte qui s'en va lutter contre les résidences privées dans le sud de Marseille, avec un livreur de pizza qui est son Sancho Panza et qui n'arrive pas à livrer ses pizzas puisqu'il n'arrive pas à rentrer, enfin à entrer là où il devrait aller. À la baleine, c'est vendredi soir. Et puis, je vous parlais de l'oubli ou de l'oubli de la lecture ou de l'oubli de la culture. Eh bien, la mémoire et l'oubli, ce sont les thèmes de la Biennale des écritures du réel de l'année. Il y a un certain nombre de projets. Hier, j'ai vu un projet avec les jeunes de Aix-Marseille Université sur justement mémoire et oubli, de quoi se souvient-on et qu'est-ce qu'on oublie et qu'est-ce qu'on voudrait oublier. C'est ce thème qui traverse un certain nombre de spectacles. On avait vu au Théâtre Joliette, il y a 10 jours maintenant, un spectacle assez fabuleux qui s'appelle « Silence Saturne », qui pose la question de la survie de la population et de la survie de la mémoire de la population dans les guerres au Liban depuis 50 ans maintenant, avec le massacre des populations des camps palestiniens qui s'était multiplié dans les années 70 et 80. Et ce qu'il en est resté et la façon dont, évidemment, ces massacres renvoient à la situation qui est faite aux Palestiniens à l'heure actuelle sur le territoire d'Israël. Donc, mémoire et oubli, oui. Et puis, ce que j'ai vu hier, ça s'appelait « Lettre contre l'oubli ». Et il va y avoir encore, par exemple, la semaine prochaine... Ah oui, il y a sur les traces des mémoires arméniennes, ça c'est aux archives départementales du Bouches-du-Rhône samedi. Et la semaine prochaine à la Friche, le jeudi 9, il y a un spectacle qui s'appelle « Lettres aux absents » qui est sur la mémoire des disparus ou des massacrés du Rwanda. Et puis, enfin bon, il y a un tas de choses sur ce qu'on pourrait appeler les vertus de l'oubli qui permet quelquefois de survivre et de continuer à vivre. Et puis, au contraire, bien sûr, les vertus de la mémoire pour garder en mémoire ce qui nous constitue. Il y a un super film, c'est aux Variétés le lundi 20 avril, Marin des montagnes. Marin des montagnes, c'est un film que j'avais eu l'occasion de voir l'année dernière sur les mémoires croisées justement de l'Amérique latine et de l'Algérie. Enfin, il y a des trucs fabuleux dans ce film. C'est un film de Karim Aïnouz, Marin des montagnes, qui donc passe aux variétés le lundi 20 avril. Il y a plein de choses. Retournez voir. Ah oui, sur les mémoires, à propos, les mémoires croisées autour de la guerre d'Algérie, il y a un spectacle aussi au Théâtre des Chartreux. C'est aussi le lundi 20 avril, parce qu'il y a souvent plein de choses intéressantes à la fois. Enfin bref, retournez voir le catalogue des événements de la Biennale des Écritures du Réel. Il y a vraiment des foules de choses sur la mémoire et sur l'oubli et sur comment, entre guillemets, ne pas oublier. Alors moi, je reviens un peu sur des histoires de mémoire, là, avec un livre aujourd'hui qui a un titre beaucoup plus romantique, ou au moins romanesque. Un livre de Isabelle Autissier qui s'appelle « L'amant de Patagonie ». Alors, « L'amant de Patagonie », évidemment, ça, on imagine tout de suite une aventure dans ces terres du Sud. Là, alors, déjà, la Patagonie, c'est très romanesque, mais ce n'est pas drôle pour dessous. Hein. Moi, je suis allée à Ushuaïa. Je suis allée à Ushuaïa en plein été austral et je vous garantis que c'était un peu comme à Marseille en ce moment. Donc l'été austral en Patagonie, c'est du genre petit printemps frisquet à Marseille. Et je n'y suis jamais allée, bien sûr, quand c'est couvert de neige, parce que merci, non, très peu pour moi. C'est splendide, hein, c'est merveilleux. Ce sont évidemment des paysages comme on n'en rencontre pas en Europe. Ça, cette espèce d'immensité américaine qu'on trouve un peu partout, d'un bout à l'autre de la cordillère des Andes et des montagnes rocheuses. Et c'est évidemment ce qui a complètement fasciné Isabelle Autissier. Isabelle Autissier, vous connaissez toutes et tous au moins son nom. Hein, c'est véritablement une grande navigatrice. C'est une... Comment on appelle ça, les gens qui vont tout seuls en mer? Une navigatrice en solitaire, voilà. Elle a gagné des courses importantes de navigation en solitaire. Et elle a été complètement fascinée par, justement, le Cap Horn. Donc la Patagonie et ces terres du sud de l'Argentine et du Chili, là où les terres se dissolvent complètement dans l'océan. Si vous prenez une carte, il y a une espèce de... Mes enfants appelaient ça, comment ils appelaient ça? Ah oui, le bol de cornflakes. Parce qu'on a l'impression enfin, vous comprenez bien, hein, de cornflakes, c'est-à-dire de petits bouts de machin qui flottent, là, qui flottent dans l'eau. Alors évidemment, les terres, elles ne flottent pas dans l'eau. C'est idiot de dire ça, mais non, c'est juste enfantin, ce n'est pas idiot. Ce pas des terres qui flottent, mais c'est des terres qui sont totalement à la merci de la mer. Et donc, des myriades d'îles. Bon, la plus grande, évidemment, c'est la Terre de Feu. Tierra del Fuego, la Terre de Feu, c'est encore une grosse île. Et puis tout autour, tout au-dessus, tout autour, il y a ces myriades d'îles qui sont, comme je vous disais, comme de la terre dissoute, en effet, dans la mer. Et d'autant plus dissoute que la mer n'est pas très avenante. Hein. La mer, c'est plutôt la mer en colère, la mer en tempête. La mer qui est sombre, qui est menaçante et beaucoup d'orages, beaucoup de vent, des pays pas commodes. Et n'empêche que dans ce bout du monde, dans l'intégralité de l'Amérique, il y avait des populations indiennes installées là depuis des milliers d'années, du nord au sud, du sud au nord. Et dans le sud du sud, dans le bout du bout du bout du monde, eh bien, il y avait un certain nombre de populations indiennes qui, vous le savez déjà, vous vous souvenez de notre lecture de « Mille femmes blanches », avaient pour passe-temps favori de s'attaquer les uns les autres. Mais ce n'était pas du tout un passe-temps. Hein. C'était parce que les conditions de vie étaient tellement difficiles, les récoltes tellement aléatoires, que finalement, attaquer la tribu d'à côté, ça permettait quelquefois de survivre un peu plus longtemps et d'avoir un peu plus de viande, un peu plus de farine, un peu plus de vivres, pour vivre justement. Donc, les Indiens Onas, les Indiens Yamanas, les Indiens Alakalouf se disputent la Terre de Feu et se disputent les îles environnantes. Et puis, un beau jour, débarquent les autres. les autres, puisque très souvent, les Indiens s'appellent eux-mêmes le peuple. Donc, ils sont le peuple de leur terre. Et quand les colons arrivent, ben, les colons sont les autres. Alors, je vous lis un tout petit bout là, de l'introduction du livre d'Isabelle Autissier, « L'amant de Patagonie ». Sur les Indiens, c'est une Indienne Yamana qui parle. « Je suis Kushinji Sikipa, du pays de Yeskumala, près, tout près du bout du monde. Je suis Kushinji Sikipa, Kipa parce que je suis une femme, et Kushinjis parce que je suis née dans la baie où il y a de nombreux canards. Les miens m'appellent Kushi. Les autres, ceux qui sont arrivés, m'ont appelée Rosie. C'est un nom qui ne veut rien dire, mais enfin j'y réponds puisque c'est comme ça qu'ils m'appellent. Le récit des ancêtres dit que ce sont les pères de nos pères qui ont vu les autres pour la première fois. Un jour ordinaire, il avait plu toute une journée, le ciel fuyait en emportant aller à Keinix, l'arc-en-ciel. Et sortant de la brume, il y avait eu tout à coup cette immense baleine si étrange, avec trois arbres plantés sur son dos. Mon peuple a très bonne vue. Je peux encore à mon âge distinguer l'ombre des cormorans la nuit au creux des falaises. Alors les pères de nos pères ont crié qu'ils voyaient de gros oiseaux colorés de bleu et de rouge perchés partout sur les arbres sur le dos de cette bizarre baleine. Tout le monde s'est pressé sur la plage. La baleine, enfin l'animal, s'est approché du rivage et il a enfanté un plus petit animal qui voguait sur l'eau et sur lesquels quelques oiseaux bleus et rouges étaient perchés aussi. Et quand ce petit bateau bizarre a touché terre, nous avons vu que ce n'étaient pas des oiseaux. C'étaient, sortant de ce bateau, des êtres qui nous ressemblaient. Ils marchaient, ils avaient deux bras, deux jambes et une tête, mais leur corps était presque invisible puisqu'il était recouvert de ces bizarres peaux colorées qui nous les avaient fait prendre pour des oiseaux. Ils étaient terriblement laids, un peu plus grands que nous, mais surtout beaucoup plus massifs, sans rien de cette finesse qui fait la beauté des corps. Et la peau de leur corps ou de leur visage était blême, comme celle des morts, et mangés par de très longs poils. Et certains d'entre eux avaient les yeux délavés, presque transparents, comme on les prête à Yetaïté, l'esprit mauvais de la terre. Ils portaient des bâtons luisants dans le timide soleil. À Caïnix, l'arc-en-ciel n'est pas un esprit mauvais, il ne punit pas, il n'est pas un signe de malheur, mais ces bâtons, eux, semblaient très bizarres. Des bâtons luisants. Alors, Nous, le peuple des hommes, comme nous avons confiance, nous sommes restés sur la plage par curiosité et puis parce que c'est la règle d'accueillir ceux que la mer a apportés. Je suis Kushinzin Kipa. Le bateau des Blancs, ce jour-là, est arrivé avant l'aube. Tout était calme et limpide. Le soleil a glissé vers le ciel dans l'axe du canal et avec le canot qui les avait débarqués, avec ses hommes en rouge et bleu, il y avait une femme. Moi, j'ai un peu des pouvoirs de mes ancêtres. Je fais partie de ceux qui savent parler aux esprits. Et j'ai vu, derrière cette femme, du haut de la colline, j'ai vu qu'elle apportait la tourmente. Alors ça, c'était le point de vue de l'Indienne Kushi. Et maintenant, on va lire l'histoire. Ben, vous savez, l'histoire n'est jamais racontée par les lapins. Donc, on va rendre la parole, non pas au chasseur, mais à Émilie. Émilie, c'est cette femme qui, ce jour-là, débarque en effet sur une plage non loin d'Ushuaïa, enfin non loin de ce qui est devenu ensuite Ushuaïa, dont le nom a été, parce qu'il se prononçait comme ça, un peu malmené, mais enfin est toujours à peu près resté Ushuaïa. Que nous dit donc Émilie ? Ça commence mal, hein. Je m'appelle Émilie et j'ai tué ma mère. Bon, d'accord. Plus exactement, elle est morte en me mettant au monde, ce qui revient au même. a-t-elle su, senti, à l'instant où je glissais vers la vie, qu'elle perdait la sienne ? A-t-elle lutté, a-t-elle admis, a-t-elle renoncé au combat ? M'a-t-elle haï de lui voler son mari, son fils et la haie de genêt dorée qui éclosait là, juste à l'extérieur, ce printemps-là ? Elle a hurlé dans la fumée des chandelles, entourée de vieilles femmes impuissantes. Voilà, ça c'est le début et c'est Françoise qui va nous lire la suite parce que la vie d'Émilie, tout au début, en Écosse, eh bien, il faut quand même la connaître un petit peu pour mieux comprendre ce qu'elle va vivre ensuite à Ushuaïa.
Jamais père n'a reparlé d'elle. Jamais il ne s'est remarié. Ce
on
qui est plus qu'un long discours.
Toutes et tous la voix couverte. Alors en tous un bon coup, allons-y.
Je sais qu'avant ma naissance, la maison était pleine de vie, de voisines et d'enfants. Personne n'aime le malheur, et moins encore ceux qui le cultivent. Alors nous sommes devenus ceux de Doherty. Cet inconvenant assemblage d'un homme encore jeune flanqué d'un bébé et d'un garçonnet de 4 ans. Je suis allée un an en nourrice et père m'a récupérée, prétextant qu'il n'était pas homme à abandonner sa fille après avoir perdu sa femme. Nous avons cheminé tous les trois, soudés autour de cette absence, arrimés les uns aux autres, comme on se serre dans la tempête. J'ai grandi dans cette étrange atmosphère où chacun protégeait l'autre autant qu'il le pouvait. Notre trio était traversé par le sens de la fragilité et de l'urgence à être ensemble. Les enfants ne trouvent jamais rien anormal. La règle familiale, c'est la vie et c'est tout. D'autant que les points de comparaison étaient rares puisqu'il y avait peu de visiteurs à Doherty. Ce n'est que lorsque tout s'est arrêté que j'ai pris conscience d'avoir été la seule petite paysanne d'Écosse à avoir eu une telle enfance. Pour moi, ce bonheur était banal. Père nous traînait partout, aux champs sous des pots de moutons, à l'étable sur la paille, le soir au coin du feu, un sur chaque genou. Il s'arrêtait souvent de travailler pour me tresser une couronne d'épinettes ou tailler un arc pour Greg. Deux ou trois fois par an, nous allions au village vendre peu et acheter encore moins. Aux moissons, il donnait un coup de main aux voisins pendant quelques jours et ceci lui rendait l'appareil. Pour le reste, nous étions ses seuls interlocuteurs. Il prenait du temps pour nous parler comme à des adultes, des bêtes et du soin qu'elles réclament, des plantes et de leurs vertus, des légendes et des histoires si anciennes qu'on ne savait plus qui les avait vécues. J'ai dû rapidement tenir ma place. À 5 ans, je savais traire, sur le tabouret rehaussé que père m'avait fabriqué. À 6 ans, je tirais l'eau du puits. À partir de 7 ans, j'étais la femme du foyer, cuisinant, cousant, mal sans doute, mais habité du désir éperdu d'effacer mon péché originel. J'ai rêvé d'être un garçon, courir la lande, monter à cheval, chasser et même couper le bois et abattre les bêtes m'a toujours plus attiré que remuer le brouet ou filer interminablement. Heureusement, Greg, qui n'avait pas de compagnon de son âge, m'a donné l'occasion d'échapper à ma condition de fille. Il s'appelait M. Il m'appelait M, faisant disparaître la sororité féminine de mon prénom. Dès que nous en avions le loisir, il me traînait en haut des arbres, m'apprenait à faire des ricochets et à tirer à l'arc. Nous menions ensemble vaches et moutons. Les animaux paisibles nous laissaient tout loisir de fabriquer des collets, de nous exercer à la fronde sur les passereaux et les alouettes des environs, et même de lutter. Nous roulions dans la prairie. J'arrivais de temps à autre à placer un croc en jambe qui le faisait éclater de rire. « Bravo, M, tu seras un bon soldat !» Je tremblais de fierté et mes nuits se peuplaient d'uniformes à boutons dorés et d'une certaine recrue plus petite mais plus courageuse que tous, brandissant son drapeau comme sur les gravures de l'almanach. Un cheval, 3 vaches, 20aine de moutons, les poules, un carré de seigle et quelques légumes. Nous n'étions pas pauvres, pas riches non plus. Quelle est la norme, le bonheur ou le malheur ? Dieu les équilibre-t-il dans la vie de chacun pour éprouver nos cœurs et notre foi ? Je suis tôt sortie de cette existence paisible. Les foins avaient été rentrés juste à temps avant les orages. Les collines étaient blondes et sèches. Le ruisseau coulait à peine et j'aimais cette période où la nature semble repue, satisfaite d'avoir créé une année encore. J'avais 11 ans. J'ai entendu le cheval s'arrêter dans la cour. Ben Ashley, le voisin, fuyait mon regard et les mots lui sortaient avec peine de la bouche. « Petite, trouve ton frère, il faut venir. » Dans la descente de la mare, c'était encore bien humide. Sous les arbres, j'ai toujours dit qu'il faudrait empierrer. Ton père est coincé sous le timon. Ça serait un miracle qu'il s'en tire. »
Alors donc, en effet, après avoir, entre guillemets, tué sa mère, la petite Émilie perd son père alors qu'elle a 11 ans. Et finalement, tout bascule dans sa vie à partir de ce moment-là. Vous avez entendu parler de Doherty. Doherty, c'est Glen Doherty, cette vallée complètement perdue dans les Highlands de l'Écosse. Eh bien, elle va quitter cette vallée perdue où finalement elle a trouvé le bonheur avec son père et son frère. Et elle va connaître une vie différente.
3 jours plus tard, je quittais Doherty, croyant y revenir un jour. Greg partait comme journalier à 30 lieues de là et le révérend Mackay, habitant Greenock, d'une lointaine parentèle de ma mère, me recueillait. Bonne âme, il se proposait de m'élever dans la charité comme l'une de ses 4 filles. De fait, je me sentais boniche au service de Feignas, dont le seul intérêt pour leur prochain consistait à en papoter méchamment. « Émilie, de l'eau chaude! Émilie, des chandelles! » « Émilie, l'ourlet n'est pas fini ?» La grande maison en pierre grise aurait pu m'éblouir avec ses meubles cirés et sa vaisselle en porcelaine. Mais en rêve, je continuais à voir la chaumière qui devait se délabrer inexorablement. La ville, ses commerces, sa foule effrayaient la petite sauvageonne que j'étais. C'est là que j'ai découvert combien il m'était indispensable de voir couler une source et d'y boire à la goulée, d'entendre crisser mes pas sur les feuilles sèches, de sentir le vent dévaler les collines, capturant au passage toutes les odeurs de seigle tiède ou de bruyère. Ces sensations, banales pour les paysans, inutiles pour les citadins, me manquaient cruellement. Je n'ai jamais su la nature de ma correspondance secrète avec ces choses simples. Mais dès cet âge, j'ai pris conscience que ma vie ne pourrait pas se dérouler sans elle. Je ne me sentais bien qu'au jardin, à biner le potager, à cueillir les pommes. En automne, je regardais les oies passer comme elles le faisaient au-dessus des collines de Doherty. Et je me souvenais que mon père racontait qu'elles partaient vers le bout du monde, là où le soleil est brûlant même en hiver. Je me sentais prisonnière. Le révérend Mackay vint sans le vouloir à ma rescousse. C'était un homme corpulent et barbu, avec des mains de femme et des yeux si profondément enfoncés dans leurs orbites qu'on distinguait mal son regard. Je le tenais pour la seule âme charitable de cette maisonnée. Jeune homme, il était parti porter la parole de Dieu jusqu'aux Indes, avant que la maladie ne le ramène et qu'il ne se marie avec la première de ses ouailles. Il lui en restait une sombre bibliothèque qui paraissait renfermer tous les secrets du monde. Son goût contrarié des voyages l'avait fait adhérer à des associations d'entraide de missionnaires, et la maison accueillait souvent des invités revenant de pays étranges pour lesquels il organisait des conférences et des quêtes. Au début, ces visites me déroutaient. Elles contrastaient trop avec mes habitudes de solitaire. Mais rapidement, j'ai été fascinée par les histoires qu'il racontait à table. Les sauvages tout noirs ou tout jaunes, les animaux féroces, les fleuves sans fin, les déserts. Jamais je n'avais imaginé tant de choses si différentes sur notre terre. Je me suis fait réprimander plus d'une fois pour être restée écoutée au coin de la salle au lieu de desservir le repas. J'eus l'audace de poser des questions quand la famille et ses hôtes se regroupaient devant la cheminée. Cela amusait le pasteur. Pardonnez la curiosité de notre jeune Émilie, voilà une exploratrice en herbe, si je ne me trompe, tempérait-il. C'est au révérend aussi que je dois mon seul bonheur de cette époque, apprendre à lire et à écrire. « À quoi bon farcir la tête de cet enfant? Elle n'en aura nul besoin, s'énervait sa femme. Laissons-la donc, si elle le souhaite. Qui sait, la lecture de la Bible sera peut-être un jour son seul secours, avait-il tranché. J'ai l'intuition qu'il me voyait déjà, épousant l'un de ses missionnaires et lisant les textes saints à des flopées de femmes en sari et en boubou, ou en boubou. C'est ainsi que je me dépêchais tous les soirs de finir mon ouvrage pour me glisser au bout de la longue table où ses filles étaient censées étudier, et je crois avoir été bien meilleure élève qu'elle.
Donc là, il y a déjà une petite idée de ce qui va se passer dans la vie d'Émilie. Et un peu plus tard, donc, on voit se dessiner son véritable avenir. Le dénouement de cette histoire, alors que j'avais 15 ans, vint des mains du facteur, un lumineux matin d'hiver. 2 ans auparavant, l'un de nos visiteurs avait été le pasteur George Bentley. Il sillonnait la Grande-Bretagne afin de récolter des fonds pour sa mission dans un endroit improbable à l'extrémité de l'Amérique du Sud. Il rendait compte régulièrement à ses bienfaiteurs de son implantation à Ushuaïa, où son petit groupe de catéchistes vivait loin de tout, entouré des seuls Indiens. Ce nom étrange, Ushuaïa, me plaisait comme une sorte de prémonition. J'apprendrai plus tard que cela signifie « la baie qui pénètre à l'ouest ». Monsieur Bentley avait un vrai talent d'écriture et le révérend nous lisait souvent ses lettres avant que nous ne prions pour lui. Ses textes parlaient des sauvages qui vivaient nus sous la neige et pour qui nous organisions des collectes de vieux vêtements. Mais il dépeignait aussi avec emphase des paysages sublimes et des glaciers plongeant dans la mer, les forêts rousses en automne et tous les témoignages de la grandeur du Créateur. Enfin et surtout, il parlait de ces âmes simples et rudes à qui il apportait les lumières de la civilisation et la morale de la chrétienté. Le révérend Bentley était le favori de nos missionnaires. Et ce jour-là, je m'étais encore fait réprimander pour avoir répondu vertement à l'aîné des Mackay. « Nous ne tirerons jamais rien de cette gamine », avait dit sa mère. « Elle est de pire en pire. Bientôt, elle va jurer comme un charretier. » Et les corrections ne mènent à rien, ce n'est même pas la peine d'essayer. « Je vous le dis, mon ami, c'est une graine de délinquante », avait empêté la femme du révérend. Elle m'avait quand même administré 2 claques. Or, le courrier, en provenance d'Ushuaïa, se terminait par une demande pressante. La femme du pasteur Bentley venait d'avoir son 5e enfant. Sa fatigue, les soins de la maison, du potager, joints à la sollicitude pour les femmes et les enfants indigènes, l'épuisaient. Ne connaîtrait-on pas une jeune fille que ne rebuterait pas ce dur climat et qui pourrait aller la seconder ? Mackay lui avait déjà sélectionné 2 ans auparavant un forgeron qui réalisait des merveilles. Alors Bentley à nouveau s'en remettait à mon fameux protecteur Mackay. Une paysanne un peu dégrossie conviendrait. À la lecture de la lettre, d'un seul élan, toute la maisonnée se tourna vers moi. Et le 26 mars 1880, je chargeais ma petite malle sur la diligence de Glasgow, en route vers le Nouveau Monde. J'avais 16 ans. Alors, elle a 16 ans, Émilie, et nous, dans notre studio, nous sommes à 11h30. Nous allons donc faire une pause. Eh bien, figurez-vous que ça ne va pas être une pause musicale. Enfin, vous allez voir. Ce sont des chants des Indiens Ona, chez qui, évidemment, Émilie va débarquer. Alors attention, accrochez-vous, 3 minutes de chant Ona.
Yo, yes,
Voilà, voilà, vous avez entendu cette femme qui chantait. Et ce qui est drôle, c'est que en fait, on avait l'impression qu'elle racontait une histoire en même temps qu'elle chantait. Alors, je ne peux absolument pas vous dire ni ce qu'elle racontait, ni ce qu'elle chantait, mais enfin, je peux vous dire que c'est une femme de la tribu des Indiens Onas, dont il reste encore quelques-uns au sud de l'Argentine, c'est-à-dire autour d'Ushuaïa. Alors, chez les Onas, c'est là que nous sommes, en effet, aujourd'hui, avec un livre d'Isabelle Autissier qui s'appelle « L'amant de Patagonie ». Et nous avons vu au début de ce livre que la jeune Émilie, née en Écosse, était allée dans le cadre d'une œuvre missionnaire, enfin, avait quitté dans le cadre d'une œuvre missionnaire son Écosse natale pour aller, en effet, vers Ushuaïa. Et elle débarque à Ushuaïa et elle écrit, elle continue à nous dire son ressenti au fur et à mesure de sa vie à Ushuaïa. Depuis 2 jours, il fait meilleur, même beau. Le vent est passé au nord et nous glissons sur une mer grise, parcourue seulement de trouées de lumière qui fusent entre les nuages. Des albatros aux yeux délicatement soulignés de noir nous accompagnent, furetant dans le sillage en quête de nourriture. Délivrée de l'ignoble mal de mer qui m'avait tenue au lit depuis le Rio de la Plata, je reste maintenant sur le pont toute la journée pour fuir l'odeur de moisi de la cabine. L'air me semble chargé d'une indéfinissable énergie, une vivacité qui m'emplit les poumons, me donne envie de chanter, me conforte dans ce choix déraisonnable de venir passer ici une partie de ma vie. Le second du bateau est très prévenant. C'est lui, plus que le capitaine qui en avait pourtant été chargé, qui a veillé sur moi pendant la traversée. Et il m'a accompagnée à terre, à Lisbonne ou à Buenos Aires, pour acheter du savon et quelques petites pièces d'étoffe en coton que j'ai beaucoup aimées. À Buenos Aires, oui, il aurait été imprudent de circuler seul. Ce pays, l'Argentine, qui fut une possession espagnole, est maintenant indépendant, mais depuis 50 à 60 ans à peine. Nous sommes dans une terre où la rébellion et les guerres continuent de façon incessante entre les tribus et contre les colonisateurs qui arrivent pour s'installer. Monsieur Sellers dit maintenant que tous les Argentins ont un président unique. Mais cet Argentin, installé à Buenos Aires, il reste dans la capitale. Et même si une armée est mobilisée pour aller dans d'autres points du territoire, il n'empêche qu'il y a tout autour, en ville même et surtout dans les environs, bien des personnes installées qui n'ont aucun moyen de vivre et qui cherchent dans la rapine la seule façon de subsister. Et puis, il y a aussi partout des Indiens. Avant l'arrivée des Européens, la terre n'était pas vide. Il y avait des Indiens ici, de pauvres gens, oui. Et puis, on a accumulé avec ces Indiens d'autres pauvres gens qui avaient misé toutes leurs économies pour un passage sur un voilier vers ce qu'ils pensaient être un Eldorado. Sont-ils maintenant payés de retour? Il est certain que cela dépend des saisons. Enfin, je suis contente d'aller vers Ushuaïa. Notre destination, à 3 semaines de bateau de Buenos Aires, c'est sûrement autre chose. Une simple communauté missionnaire Et avec de l'eau et des vivres, nous sommes partis pour aller vivre un moment, oui, en ce qui concerne les marins, et pour moi, beaucoup plus longtemps, vers ce sud du sud. La température a chuté, le vent s'est renforcé, mon enthousiasme a commencé par faiblir. Et aujourd'hui, avec le soleil, je retrouve un meilleur moral.
Mais aujourd'hui, les conditions agréables chassent mes idées noires. Je suis à nouveau Émilie, le bon petit soldat, prête à toutes les aventures. Et comme un bonheur ne vient jamais seul, c'est pendant que je savoure cette belle lumière que M. Sellers me rejoint sur le pont tout sourire. « Regardez, mademoiselle Émilie, voilà la terre. » Il faut une sacrée bonne vue ou le légendaire optimisme des marins pour voir un continent derrière la trace grisâtre que me désigne mon compagnon. Mais peu à peu, une barre apparaît et monte à l'horizon comme une bête émergeant du néant. Une falaise beige et nue se précise, ponctuée de plages de galets et au-delà, des moutonnements à perte de vue où jouent des taches de soleil. Voilà tout ce qui m'attend. Pas un indice de vie humaine, ni hameau, ni chemin, ni lent serpentin de fumée rassurante. Rien ici que la nature brute. J'ai presque le vertige à prendre conscience de ce vide. Le monde est grand, je me sens si petite. Ce dimanche, nous sommes entrés dans le canal de Beagle.
Beagle, c'était un grand navigateur précédent. Et donc, il a donné son nom au détroit de Beagle, comme Magellan avait donné son nom au détroit de Magellan.
Baptisé du nom du navire de Monsieur Fitzroy, l'un de nos plus grands marins, qui a longuement cartographié ces régions désertes.
Ah oui, alors excusez-moi, ce n'était pas le nom du marin, c'était le nom du bateau. Alors, ce qu'il y a de bien, c'est que quand vous vous promenez, entre guillemets, en bateau, justement, sur le canal de Beagle, on vous dit que, étant donné les rochers, les hauts fonds, les tempêtes, etc., le canal de Beagle est un véritable cimetière de bateaux et que partout là où vous êtes, sous les bateaux dans lesquels vous êtes, il y a des bateaux qui ont coulé. C'est rassurant.
C'est un passage qui relie tout au sud de l'Amérique, l'Atlantique au Pacifique, isolant la grande île de Terre de Feu de celles plus petites qui aboutissent au Cap Horn. Au cœur de l'été austral, le panorama est éblouissant. Au nord, s'élancent de grandes forêts qui s'interrompent brutalement à une certaine altitude, comme si on avait donné un coup de ciseau dans la couverture sombre pour laisser place à des faces rocheuses parsemées de plaques de neige. Au sud, des collines plus avenantes alternent bois et prairies. À l'ouest, le canal se perd dans un mystère de pics, de rocs et de sommets couverts de glace. Le soleil presque chaud irradie l'ensemble, soulignant chaque détail avec une absolue netteté. Le paysage paraît briller de l'intérieur, habité de quelques âmes secrètes. Il m'est presque venu l'envie de pleurer devant tant de beauté. Dès ce premier jour, je sens s'établir en moi un pacte profond avec cette nature. Je vais me vouer à elle et jamais elle ne me trahira. Je suis là où je dois être. Je pense une fois encore à Doherty, Greg, le père et père, mais c'est sans regret. Ces lieux seront comme un écrin de beauté à mes pensées pour eux, dignes de leurs souvenirs. Je ne veux pas vivre dans la nostalgie, même si je me reproche de devoir maintenant faire un effort pour évoquer les cheveux drus de père, sa barbe noire et les plis de sa bouche tirant tristement vers le bas, même si je peine à imaginer Greg en homme accompli, entouré d'enfants, je sais que mon avenir n'est pas là et qu'il me faut garder leur image dans une boîte à souvenirs, dans un recoin de ma tête et faire place nette pour ce futur qui se présente à moi. En plein été, les nuits, comme à Doherty, ne durent guère plus de 3 ou 4 heures. Dès que l'aube blanchit, je me précipite pour voir mon nouveau cadre de vie. J'ai une bonne impression. La baie d'Ushuaïa est bordée de hautes montagnes. L'inévitable forêt occupe presque tout le pourtour, à l'exception de collines basses à l'ouest, prolongées d'îlots qui isolent le fond de la baie du canal, formant ainsi un vaste port naturel bien protégé. C'est sur ces collines qu'est bâtie la mission. Peu de choses, en fait. Un débarcadère, un chemin, du côté gauche sur la hauteur, 3 maisons de briques et de bois, entourées chacune d'un enclos, un peu à l'écart d'un édifice plus grand, visiblement en construction, qui doit être le temple pour lequel le révérend Bentley réclamait des fonds. Près de la rive, quatre autres maisons, construites seulement en bois, ont déjà l'air abandonnées, et leur faisant face une dizaine de huttes. Voilà pour le village. Au bord de l'eau, au milieu de grandes algues brunes, quelques fins canoës. Des chiens se bagarrent bruyamment. Malgré l'heure matinale, des personnes vont et viennent entre les huttes. Mes premiers Yamana, puisque c'est ainsi que se nomme cette tribu. Malheureusement, nous sommes à l'ancre, loin de la plage, en raison des faibles profondeurs, et je vois mal.
Alors, elle parle ici des Indiens Yamana, en effet, qui sont ceux qui habitent à Ushuaïa. Et tout à l'heure, ce qu'on a écouté, c'était les chants des Onas, qui sont une tribu voisine, un peu plus loin dans la Terre de Feu.
Je me réfugie dans la maison du révérend comme dans un havre. De l'extérieur, elle ne paye pas de mine. Soubassement en briques, mur en bois, toit en tôle, elle n'a pas le côté rassurant des bons murs de pierre de Doherty. Ni bien sûr la classe de la façade crépie de Greenock, mais la porte poussée, je retrouve la chaleur du foyer de mon enfance. J'entre dans une vaste pièce où brûle un feu qui reste nécessaire même au cœur de l'été. Deux bahuts, un vaisselier, une longue table et une dizaine de chaises ont dû avoir leur facture plus soignée, faire le voyage depuis l'Angleterre. Le reste, plancher, étagère, tabouret, desserte, à l'aspect brut et noueux du être local que j'apprendrai à connaître. À l'inverse de la maison Mackay, qui croulait de tapis, de cadres et de bibelots, je trouve ici un dénuement plaisant. Rien au mur, le spectacle est assuré par les fenêtres qui donnent à l'est sur la baie et les hauteurs tourmentées. Je respire cette odeur de ferme, de bois, de suinte, d'humidité, de relents de cuisine et d'humains entassés. Aux quatre coins, quatre portes. Trois donnent sur les chambres et la quatrième sur la buanderie et la resserre. Une petite femme blonde, aussi maigre et pâle que son mari est enveloppé et allé, m'accueille. Dorothy Bentley. Fillette, venez saluer votre gouvernante. J'ai peine à ne pas sourire. Gouvernante, dans cette bicoque au milieu de nulle part, loin de toute société, en s'accrochant aux us et coutumes de son monde, Dorothy, je m'en apercevrai plus tard, réussit à tenir à distance la sauvagerie de cet environnement. Dehors, le froid, les sauvages, le vent furieux sur le canal. Dedans, son foyer, des enfants courtois, l'argenterie de son mariage et le service à thé. La femme du révérend filtre la réalité, l'expurge mentalement de tout ce qui s'écarte de la vie qu'elle aurait dû connaître au cœur du Sussex ou du Hampshire. Parfois, elle me fera penser à une enfant racontant des chimères à sa poupée. Deux petites filles sont sorties d'une chambre. N'était leur âge différent, 9 ans pour Marie et 5 ans pour Bette, elles pourraient être jumelles. Petit corps fragile, nattes blondes, yeux de porcelaine, elles paraissaient aussi déplacées ici que moi en gouvernante. J'ai juste le temps de noter que Marie me regarde par en dessous d'un air contrarié, quand Bette accourt me planter un baiser en riant. Je n'ai guère le temps de m'y attarder. Il faut desservir le thé, écosser les haricots, changer le bébé. Durant les semaines de mer, j'ai développé une sorte de léthargie, en phase avec le moutonnement perpétuel de l'océan. J'ai plaisir à m'en arracher, je retrouve la vraie vie. La maisonnée ne doit sa survie qu'à l'acharnement des uns et des autres. Ici, personne pour nous couper le bois ou porter l'eau, soigner les bêtes et le jardin, coudre les vêtements. Il n'y a rien qu'une poignée d'êtres luttant pour garder un semblant de civilisation dans ce désert. Le dîner sera joyeux. Le révérend Bentley a résolu d'offrir un repas à toute la colonie. Les enfants couchés, je découvre ceux qui vont accompagner ma vie future. Outre le capitaine et le second, se serrent autour de la table Joachim et Harry, les deux garçons de la famille que l'on traite déjà comme des adultes. John Doodle, le catéchiste célibataire qui loge avec nous. Elisa et Samuel Pierce, le forgeron envoyé par Mackay. Et deux autres couples, les Simley et les Mesh, dont les maris font office d'agriculteurs, de menuisiers et d'hommes à tout faire.
Oui, donc c'est assez amusant quand même de voir, amusant dans un premier temps au moins, de voir comment au bout du monde, au sud, Émilie retrouve finalement une société de son bout du monde, au nord, en Écosse, dans les Highlands, là d'où elle vient. Et en effet, quand on est à Ushuaïa et sur le canal de Beagle, on se rend compte que les colons qui se sont installés là, c'était majoritairement des personnes venant de terres difficiles en Écosse ou au Pays de Galles. Alors tout de même, il faut dire que la réputation, on reviendra tout à l'heure sur ces violences, la réputation des Gallois qui sont installés sur les bords du canal de Beagle, c'est avant tout d'avoir chassé les Indiens, et je dis bien chassé, c'est-à-dire avec un fusil en leur tirant dessus, parce que ces Indiens étaient accusés tout simplement de voler les moutons. Donc, bien sûr, les Gallois qui ont construit leur maison, qui ont dressé des fanons de baleine plantés dans le sol pour faire des espèces d'arcs de triomphe à l'entrée de leur propriété. C'est pas tout à fait, quand on se promène dans les terres voisines d'Ushuaïa, c'est pas tout à fait les colons bénissants et, comment dit-on, missionnaires que nous présente au début de son livre Isabelle Autissier. Mais on va s'apercevoir en effet que cette société entre guillemets anglo-saxonne émigrés au bout du monde dans les terres indiennes essayent, c'est déjà ce qu'on a vu avec le personnage de Dorothy, essayent de conserver un rythme de vie et un genre de vie typiquement entre guillemets britannique. Vous savez, on est un peu comme au Kenya ou en Inde, sauf que la température n'est pas la même, où ces dames de bonne famille continuent à boire le thé, entre guillemets, le petit doigt en l'air, même si à l'extérieur, le vent s'enrage, la neige ou le soleil vous rend la vie impossible, et même si, en effet, les indigènes sont pris pour des sauvages, considérés comme tels et vécus comme tels. Alors, Émilie continue. Deux jours durant, le vent s'est enragé dans la baie et je suis peu sortie. La pluie incessante a tant obscurci l'atmosphère qu'il fallait allumer les lampes pendant la journée même. La pièce a l'air d'un cocon ballotté au bout d'une branche. On jurerait voir les murs ployés sous les assauts du vent et de la tempête. Dorothy est nerveuse, sursaute quand le vent fait craquer les tôles du toit, passe du coq à l'âne, astique l'argenterie, puis laisse tout en plan pour préparer une barrique de choux, puis revient à ses couverts et houspille ses filles. Comment a-t-elle pu tenir durant toutes ces années s'il lui a fallu lutter ainsi contre tout l'environnement ? De temps à autre, la porte s'ouvre et paraît se dégonder tant le souffle la rabat avec violence. Ce n'est que l'un des hommes qui est venu chercher un outil ou un peu de thé chaud pour continuer son ouvrage. Malgré l'ouragan, il travaille sous le couvert de la forêt. Il scie, il bûcheronne. La scierie, avec l'élevage, c'est la grande affaire de notre petite colonie, ce qui permet de gagner de quoi vivre, car les dons sont loin de suffire. Le pasteur ne ménage pas ses efforts pour faire des uns et des autres des modèles d'efficacité et de rendement. Et il rêve de transmettre un jour ce même goût du travail aux Indiens. Deux fois par an, il affrète un bateau pour livrer le bois ainsi débité aux îles Falklands, où il n'y a pas de bois du tout et où il manque cruellement. Alors, au passage, vous vous souviendrez de la guerre des Malouines. Donc, les îles Falklands, c'est bien sûr le nom britannique des Malvinas, qu'on appelle Malouines en français, et qui a opposé, mais oui, les Argentins aux Britanniques. C'était quand ? Dans les années 70 du XXe siècle, puisque les terres coloniales, eh bien, leur statut n'était pas encore réglé. Et les Britanniques voulaient garder les Falklands, alors que bien sûr les Argentins, fiers d'être Argentins, voulaient récupérer leur territoire.
L'armement français a participé à cette guerre.
Ah oui, l'armement français, c'est-à-dire les exocètes, hein, les missiles français qui s'appellent comme les poissons volants, les exocètes, ont fait merveille, entre guillemets, dans la marine argentine. Eh oui, figurez-vous que l'armement français avait fourni à la marine argentine je ne sais pas comment on dit, l'arme qui a été quasiment décisive dans la bataille des Falklands. Il me semble bien que les Britanniques ont en effet abandonné les Falklands. Faudrait vérifier, mais bon. La tempête est passée, nous dit Émilie. Après quelques grains encore plus violents, le ciel s'est soudain immobilisé et un concert d'oiseaux a explosé, saluant le repos des tempêtes. Ce matin, nous sommes descendus au village indien pour voir comment ils avaient supporté le mauvais temps et apporté quelques secours aussi. J'avoue y aller avec une certaine répugnance. À notre approche, les enfants s'agglutinent et deux vieilles de l'autre côté des tentes ou des huttes restent là à nous regarder, accompagnées toutefois d'un jeune homme d'assez belle allure. « Alors, Aneki, comment ça va ? Comment vont la grand-mère et la grand-tante ?» Aneki, oui, c'est un genre de chef de la tribu. Il parle un peu anglais, ou du moins il a appris un peu d'anglais, puisqu'il est parti, lui aussi, quelque temps aux Falklands, dans une autre mission, et il y a acquis ce vernis de civilisation britannique. Aneki ne nous répondra pas de façon bien détaillée. Il dit simplement que non, tout va bien et que de toute façon, c'est l'été, c'est moins dur qu'en plein hiver. Et puis, les deux vieilles, elles savent encore pagayer, rapporter le poisson. Les femmes sont bien à l'aise pour manœuvrer les pirogues et nager. Nager ? Mais oui, dans cette eau glaciale, ce sont les femmes qui pagayent et qui amarrent les bateaux, pendant que les hommes, debout, manient le harpon et assurent ainsi la subsistance. « C'est qu'il faut les voir faire », me dit encore Dorothy, comme nous rentrons à la maison. « Ils sont très adroits dans le maniement de leurs bateaux et de leurs harpons. » Le lendemain, au petit jour, je suis réveillée par des coups sourds derrière la maison. Aneki a décidé de venir travailler pour gagner un peu d'argent. Le garçon, vêtu seulement d'un genre de casse-chex, fend avec régularité de lourdes bûches. Il y a beaucoup de grâce dans ses gestes. Il palpe d'abord la pièce de bois comme s'il caressait un animal, et je jurerais qu'il lui parle. Puis il l'adresse et abat la hache avec précision. L'air paraît vibrer derrière le tranchant de la lame. Deux fois, trois fois, les coups claquent. Il prend ensuite chaque bûche avec autant de délicatesse que s'il tenait l'enfant dans ses bras et il la couche sur un lit d'herbe. Il a préparé ce lit d'herbe le long de la maison pour que les bûches puissent sécher au fur et à mesure qu'elles sont coupées. Et il montrera de toute cette journée une résistance incroyable. Il poursuit son travail, oui, 7 heures ce jour-là. Il coupe du bois et tant qu'il en reste, il ne fait que venir à bout de cet énorme tas de bois. Aneki est l'un des plus beaux Yamanas. Pour la première fois, j'ai l'impression d'une silhouette vraiment fine et musclée qui correspond à l'idée que je me faisais d'un sauvage avant de quitter l'Écosse. Mais son attitude est décourageante. Il est buté comme son ouvrage. La maisonnée va et vient autour de lui. Il semble ne voir personne. Il ne parle pas. Il est dans un monde fait de troncs et de bûches, incapable d'un mot et d'un sourire. Et dire qu'il est l'un de ceux qui parlent le mieux anglais et sur qui le révérend compte pour amener ses semblables à plus de civilité. Alors nous allons vous laisser sur ce portrait un peu mitigé de Aneki et sur cette sévérité du climat, on s'en doutait, d'Ushuaïa au sud de l'Amérique, là-bas, loin. Et là où est partie Isabelle Autissier, bien sûr, avant de nous raconter l'histoire de Émilie. Isabelle Autissier, que nous retrouverons avec Émilie la semaine prochaine pour d'autres aventures en Patagonie. Here's a song that comes from Tanzania.